On poursuit notre mission avec le KKL ici à Tel Aviv et on arrive au troisième jour de notre délégation. Et nous sommes ici dans un endroit qui s'appelle, je ne sais pas, vous souvenez-vous de ce mouvement qui s'appelait Frères d'Armes? C'était des soldats, souvent soldats de réserve. Rappelez-vous, huit semaines de manifestations, des centaines de milliers de personnes dans la rue, boulevard Kaplan, rappelez-vous, des gens qui disaient « Nous ne ferons plus les Milouim, nous sommes des pilotes, nous n'irons plus nous entraîner », vous vous souvenez? Depuis le début de la guerre, d'abord, bien avant, le soir même du massacre du 7 octobre, perpétré par les terroristes du Hamas, le centre où nous nous trouvons aujourd'hui, le soir même, a été transformé en 5 minutes en centre de soutien aux populations du Sud, à l'armée, à Tsahal. Et nous sommes ici, sur place, donc dans ce centre incroyable qui s'appelle, qui est issu du mouvement Frères d'Armes, avec Nir Guess, qui est l'un des porte-parole de ce mouvement. Et alors en plus, Nir, Erev Tov, bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, et ce centre a en plus quelque chose de particulier, c'est qu'il est à Tel Aviv, et c'est aussi un lieu de rencontre de tout ce que la Startup Nation, de tout ce que le high-tech...
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement le but. C'est qu'on a utilisé notre Startup Nation pour faire un Startup Aid. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a créé un centre de support pour notre pays. D'abord pour les militaires qui se trouvent au front et pour leurs familles. Et deuxièmement, pour toute notre population qui sont éparpillées, toutes les populations qui ont quitté leur village, qui ont quitté leur ville au nord et au sud du pays. Et ils sont éparpillés dans le pays, de les soutien dans ces jours qui sont très, très difficiles pour eux.
Alors, vous êtes des centaines, les gens du... Centaines ou milliers?
Des milliers.
Ah, vous êtes des milliers.
Des milliers. Ici, dimanche matin, où on est debout là, il y avait 15 000 volontaires qui sont venus dans le premier jour. Et le lendemain, il y avait plus de 30 000. Et à partir de ça, on a dit, ça suffit, on n'a pas besoin de tellement beaucoup. Et on a commencé à envoyer des volontaires au sud pour aider à l'agriculture, pour aider à les différents domaines au sud. Et ici, on a gardé plus ou moins 15 000 pour soutenir le centre.
Alors ici, c'est un peu le centre de commande. Et comme vous êtes des experts en haute technologie, vous avez développé, vous me dites si c'est un peu un abus de langage, une espèce de Amazon israélien.
Exactement.
Ah, c'est ça, vous êtes d'accord avec moi?
Vous l'avez dit exactement. C'est le petit Amazon israélien. Ce qu'on fait ici, c'est on centralise les besoins. On cherche.
Que les gens écrivent par Internet.
Partout, par tout moyen. Et après ça, on cherche dans le monde entier la marchandise, on envoie les avions pour chercher la marchandise et on les amène ici.
Et après vous livrez aussi, c'est-à-dire les gens peuvent aussi recevoir par exemple dans le sud?
Tout à fait.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez des gens qui participent à la cueillette, des légumes, des fruits dans le sud et peut-être que les auditeurs comprennent pas forcément pourquoi, parce que vous, comme vous êtes les mains dans le cambouis, vous savez exactement de quoi il s'agit. En fait, je vais résumer et vous allez nous expliquer. Il faut savoir que tous les travailleurs thaïlandais sont partis. Il faut savoir que les populations du Sud sont réunies ici, à Tel Aviv. Il n'y a personne pour ramasser les légumes. Et donc vous envoyez des volontaires.
Tout à fait. On a ce qu'on appelle les frères pour l'agriculture. Il y a les frères pour l'arme, il y a les frères pour la santé, et il y a les frères pour l'agriculture. Nous avons créé un réseau des gens qui, tous les jours, ils se lèvent le matin, ils descendent au Sud et ils aident à cultiver les terrains des gens qui ont quitté les kibbutz, les moshavs à Gaza. Je vais vous dire autre chose. Vous avez parlé des Thaïlandais. Moi, je suis dans ma vie civile, je suis l'ambassadeur et le consul de Malawi en Israël. Je suis un diplomate, oui. Je suis un diplomate et c'est ce que je fais. C'est pas mon travail porte-parole, mais j'ai quitté tout ce que je fais. Je suis venu ici volontaire à partir de le lendemain, à partir du 8 octobre.
Le lendemain du massacre.
Voilà, et je vais vous dire ce que je fais actuellement en tant que je parle. On est en train d'organiser des milliers de spécialistes d'agriculture que pendant les années, nous avons entraînés et appris, qui venaient de Malawi en Israël comme des students, comme des étudiants. Ils venaient ici, on avait 200, 300 chaque année. Ils venaient ici, ils étudiaient, ils repartaient en Malawi. On est en train de récupérer tous ceux qui étaient ici pour les amener pour travailler ici au moment difficile, avec évidemment avec une visa spéciale de travail pour 5 ans.
5 ans.
Et on est en train, il y a le premier avion, si Dieu veut, tout se passe bien. Le premier avion va quitter le 12 novembre Malawi pour venir en Israël avec 220 premiers employés. On va arriver jusqu'à, d'après moi, jusqu'à 10 000 avec Malawi. Et ça, c'est une partie, l'investissement de longue durée que nous avons fait en Afrique. Maintenant, on peut récupérer les fruits. Et je dois dire quelque chose pour le peuple malawien. Du premier jour, il est avec nous.
Ah oui, ils ont dit oui tout de suite.
Du premier jour, ils sont avec nous et ils sont prêts. Ils ont dit, on est prêts maintenant de venir. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Surtout le président et les ministres, ils disent, dire tout ce qu'on peut faire pour le peuple d'Israël, on est là. Et
ça, c'est parce que vous nous avez aidés. Nous, on sera là pendant que vous êtes en guerre.
Tout à fait.
Vous avez dit, voilà, moi je suis diplomate, normalement c'est pas ce que je fais, c'est pas mon métier, quoi, c'est pas, je suis là parce que je suis supporté volontaire. Mais il faut savoir qu'on a aussi des gens qui sont ici en train de porter des cartons.
Oui, hein. Celui qui vient de passer là, oui. Il est PDG d'une des plus grandes compagnies israéliennes, et c'est lui qui a mis tout ça en place, et lui, tu le verras tout à l'heure, en train de ramasser des cartons pour envoyer aux familles qui en ont besoin.
Parce que là, on parle de haute technologie, mais par exemple, vous avez un besoin crucial de chaises. Il faut des chaises, voilà. Parce que les gens ont été... Ah, vous voyez, vous devez... j'ai regardé.
Oui,
hein.
Oui, mais vous allez voir tout à l'heure, il y avait ici deux généraux, des chefs de l'aviation, qui étaient là il y a une semaine. Ils viennent aider pour prendre les chaises. Deux généraux, ils ramassent des chaises pour amener à les familles en deuil. C'est incroyable, je voyais ça et j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Ils ont oublié les grades, ils ont oublié les généraux, ils ont tout oublié. Ils sont là pour ça. Et ça, c'est la beauté de cette organisation. Il y a des gens ici de tout niveau, je veux que vous sachiez, de tout niveau. On a mis tout à la maison. On a mis tout notre ego, on a mis tout notre grade, on a tout mis à la maison. On est là pour le peuple Israël. On est là pour le Magen David. On est là pour mettre sûr que c'est... Hostages vont revenir. C'est tout. Merci.
Non, c'est pas tout. Tout, okay. Tiens, non, je regardais parce qu'il me montre sa médaille, mais comme on est en radio, on voit pas, c'est une médaille militaire. C'est, vous savez, la médaille qu'on laisse
c'est
après
un plaque
sur le front.
Militaire. Voilà, on met militaire. Ça pour les militaires en front. Et là, ensuite, il y a marqué notre cœur est avec vous, on va vous remporter.
Mais on va remporter. Oui.
Voilà.
Et deux ou trois questions de plus, parce que par exemple, donc on parle à haute technologie de ça, et c'est important, parce que par exemple, vous, ce centre centralise, il sait faire par rapport aux moyens de haute technologie pour redistribuer, c'est très important.
Bien sûr.
Parce que c'est l'arrière-front, d'ailleurs on a bien compris qu'il n'y a plus de front aujourd'hui.
Hein, on est tous au front, tout le pays, et le pays, vous savez, il est petit, alors n'importe où
non,
tu vas.
Non mais même
vas,
eux, pour eux, il n'y a pas
bien sûr.
En face.
Non, pour eux, ils ne font pas, écoutez, il faut comprendre, pour eux, il n'y a pas israélien, thaïlandais, même arabe israélien. Ils les ont tués. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au chauffeur du bus. Il lui dit, je suis arabe israélien. On a vu ça dans les vidéos. Il dit, je suis chauffeur de bus arabe. Et ils lui ont dit, tuez-le. Ils l'ont tué, ils l'ont brûlé. Un chauffeur de bus arabe de Jérusalem, East Jérusalem.
Un Palestinien en plus, alors de Jérusalem.
Vous avez pas vu cette vidéo ?
Oui, oui.
Incroyable vidéo.
Ah, mais moi, je vais même vous dire autre chose. Il n'y a pas de différence entre Israéliens et Juifs. Hein. Là,
non,
vous
non.
parlez à
non,
Paris,
non,
je
non,
vous dis,
il
n'y a pas de différence.
Non,
il
n'y a pas. Non, ils ne comprennent pas aussi la différence. Aussi, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui font une erreur encore et encore. Ils disent le problème palestinien. Hamas, ce n'est pas Palestine. Hamas, ce n'est pas le problème palestinien. Hamas, c'est plus grave que ISIS. Hamas, c'est plus grave que Daesh. Il faut comprendre. C'est un mouvement qui n'a pas de border. C'est un mouvement qui est créé sur la haine et le peur des gens normaux. Il vit sur la peur des gens normaux. Le Daesh, ce mouvement, à l'âge de 6 ans, ils apprennent aux petits-enfants à l'école comment égorger un poulet vivant. On donne à un enfant de 6 ans de l'égorger pour qu'il n'a pas peur du sang. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est pas un mouvement palestinien. Avec toute la haine qu'ils ont contre nous, les Palestiniens, c'est pas Hamas. Ça, c'est mille fois différent. Et s'ils avaient la possibilité, ils auraient égorgé tous les Palestiniens comme ils égorgeaient les Juifs. Je vous rappelle, comme ils sont rentrés à Gaza, le Hamas, comme la première action qu'ils ont fait à Gaza, comme ils sont rentrés, ils ont jeté de la 7e étage le gouverneur palestinien qui était là du Fatah. Ils ont tué, ils ont brûlé, ils ont égorgé tous les officiers Fatah qui étaient à Gaza. Ils n'étaient pas des Juifs et pas des Israéliens. c'était les Palestiniens.
Non, mais les Palestiniens proches d'Arafat en plus.
Tout à fait. Tout à fait. Arafat qui était un symbole. Ça, c'est pas Arafat. Ça, c'est pas Palestine. Je veux vous dire, il n'y a pas un conflit. C'est pas un conflit Israël-Palestine ici. Ici, c'est un conflit d'existence entre un mouvement djihadiste qui s'appelle Hamas et un État israélien qui est un État souverain et qui est un État avec une loi, avec une armée, avec des meneurs. Comment on dit meneurs? Avec des...
Avec une direction.
Avec une direction.
Avec une direction. Là-bas, il n'y a pas de direction, c'est nihiliste. Pendant qu'on parle, il y a une dame, elle vient avec des couvertures. Hein.
Voilà.
Que juste qu'on sache.
Vous non, allez voir.
En plein interview, donc soyez gentil, ne prenez pas les couvertures tout de suite. Mais une dame, totalement anonyme, je la vois, elle est en face de moi, elle a des couvertures dans la main, c'est clair que ça vient de chez elle.
Regardez l'âge de la dame.
Ouais.
Regardez l'âge, c'est comme notre mère ou père. Hein. Et c'est beau, c'est beau. Il quitte la maison et prend ce qu'elle a
et elle pose.
Pour amener.
Mais il faut savoir que, ça va, par exemple, vous disiez, il y a des gens de Tel Aviv qui descendent tous les matins à 6h du mat pour les cueillir. Non mais attendez, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé un peu votre centre, d'après ce que j'ai compris, en plus de ça, il y en a qui remontent avec des caisses et ils vendent les poivrons
à Tel Aviv,
directement.
Vrai, oui, il y a un marché ouvert à Tel Aviv.
Pour que l'agriculteur du sud n'y perde pas, il perde pas son... Évidemment que lui, il le fait totalement gratuitement, mais pour qu'il ne perde pas ses revenus, il les vend à Tel Aviv. Il ne fait pas le voyage les mains vides.
Tout à fait.
Une toute dernière question. Il y a... la ville d'Elat, c'est 51 000 habitants, normalement.
Maintenant, elle est 110, je crois. Il y a 60 000.
Il y a plus de réfugiés à Elat, pardon, que d'habitants de la ville.
Tout à fait. Ils ont doublé, plus que doublé la population. C'est un problème. On envoie d'ici des paquets, on envoie d'ici des camions à Elat pour supporter la ville, pour supporter les gens. Vous voyez, on est en été, mais il y a des couvertures. Parce qu'on pense, on a demandé des demandes, des couvertures, des jaquettes, parce qu'on va rentrer bientôt à l'hiver. On doit être prêt pour l'hiver. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Nirguez, on est très heureux de vous avoir reçu sur Radio Shalom. Merci à vous.
Merci de venir de ces temps-là. C'est incroyable, c'est très gentil de votre part de venir.
C'était notre plaisir, comme on dit en hébreu. On se retrouve dans un instant. On est avec la délégation du KKL, ici, en solidarité avec les Israéliens, ici à Tel Aviv. Bernard Abouaf au micro, on se retrouve dans un instant. On poursuit notre périple et on est devant maintenant une place, devant le musée d'art de Tel Aviv, dont vous avez probablement vu la photo. La photo, c'est cette table énorme de Shabbat avec des chaises vides, une table immense avec une chaise par otage. Une chaise, il y en a donc 233. Une chaise, peut-être plus d'ailleurs. Une chaise par personne qui n'est pas là et que nous attendons pour qu'il revienne. Et nous sommes avec l'un des militants qui viennent et qui gardent cette table jusqu'à ce que les otages reviennent. Erev Tov.
Erev Tov, bonjour.
Comment vous appelez ?
David.
David. David, pourquoi est-ce que vous donnez votre temps? Bon, je comprends évidemment l'intérêt des otages, d'autres ne le font pas. Pourquoi, pour vous, c'est important d'être ici, à Tel Aviv, devant cette table vide?
En tant qu'ex-soldat, et qui était à Gaza dans la guerre en 2014, qui a perdu des amis, moi-même, je sais, j'ai été... à côté des familles qui ont perdu les personnes les plus proches à leur cœur. Et je voulais être ici pour donner...
pour vous, on va dire comme ça, enfin je sais pas, je vous interromps, mais
oui.
Peut-être que c'est grossier de ma part.
Non.
Pour vous, c'est votre forme d'action, c'est ça. Okay. Vous voulez être là, à côté de la table vide des otages, c'est ça, c'est votre militantisme.
Okay. Voilà, c'est ça, c'est... je sens que si je suis pas là, alors les familles n'auront pas quelqu'un à parler avec et je suis là pour les soutenir. Je peux pas rester à la maison et les voir ici.
C'est intéressant parce que nous, vous savez qu'à Paris, beaucoup d'entre nous nous disent « je peux pas rester sans rien faire, je ne sais pas quoi faire ». C'est intéressant quand même que les Juifs à travers le monde finalement ressentent
les mêmes sentiments et... Et voilà, bon, il y a les familles et on voit la douleur et on voit...
C'est aussi peut-être, bon, vous avez 20 ans, c'est peut-être aussi parce que vous aviez des amis à la rêve partie, je ne sais pas, ou c'est par simple solidarité comme ça vous êtes sorti de chez vous?
Par simple solidarité, la famille de ma femme habite à Kibbutz Nir Yitzhak, c'est un des kibbutz qui a été attaqué le 7 octobre, et... je sens que je fais partie aussi de cette famille du sud, des kibboutzim autour de la bande de Gaza, et comme j'ai dit avant, je peux pas rester. Je travaille ici à Ichilov et j'étais dans mon bureau et je pouvais pas rester. Il fallait venir et il fallait soutenir, il fallait être avec les familles. Voilà.
Est-ce que vous êtes inquiet pour ces familles? Est-ce que vous demandez à Tsahal d'agir plus fort? Est-ce que vous intervenez donc, y compris dans le débat politique, moins fort, je ne sais pas, ou non, c'est juste, je ne veux pas qu'on oublie les otages.
Oui, c'est simplement ça, je ne veux pas qu'on oublie les otages. Je trouve aussi qu'il faut, il faut faire tout pour les ramener à la maison et en parallèle aussi faire tout pour détruire le Hamas et espérons qu'on pourra...
Y arriver, tout simplement.
Y arriver
mais par exemple, quand le gouvernement dit, excusez-moi, j'arrête pas de vous interrompre, quand le gouvernement dit, on fait les deux en même temps, on agit contre le Hamas parce qu'il faut détruire le Hamas et on agit pour retrouver les otages, ça vous convient?
Ça me convient, oui. Tout à fait, je crois que il faut pas négocier avec des organisations terroristes. C'est comme ça, faire tout pour les ramener. Que nous les ramenons sans rien donner et voilà, et on y arrivera, Bezrat Hashem.
D'où vous parlez français?
Eh bien, je suis né à Paris, je suis venu quand j'avais 3 ans et voilà, c'est tout.
Et il est resté le français, pas le français avec la maman, le papa.
Et la maman, le papa, la grand-mère, les cousins.
Magnifique. Ben, un petit mot pour ceux qui sont à Paris encore.
On pense beaucoup à vous, on sent beaucoup votre soutien, on le sent ici, vraiment. Et on espère qu'on pourra être réunis en Eretz Israël.
Amen.
Plus tard, après cette guerre. Et voilà, gros bisous.
Merci beaucoup. Donc, en direct sur cette place de Tel Aviv, cette place qui se trouve en fait devant, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est le musée d'art moderne, le musée de Tel Aviv. Il y en a plusieurs. Celui-là, c'est celui d'art moderne. Et cette immense table très impressionnante. Mais d'ailleurs, combien il y a d'otages?
240
otages, voilà. Donc il y a 240 chaises qui attendent qu'ils reviennent. Et David a juré, il ne bouge pas tant qu'ils ne sont pas revenus. Animodelecha, merci beaucoup.
Merci, Toda Rabba.
Comment est-ce que tu t'appelles?
Rudy Abrahami.
Rudy Abrahami.
Rudy, alors toi, ton action, c'est que tu as des appartements. Explique-nous.
Alors, nous, on a une boîte de location de gestion de conciergerie, comme vous appelez ça en France, avec 350 appartements qui ont été mis à disposition des familles du Sud à partir du 7 ou du 8 octobre. Ouais.
Et c'est disséminé dans tout le pays?
Non, nous, on est que à Tel Aviv, mais on a fédéré plusieurs dizaines de conciergeries pour quasiment près de 3000 appartements qui ont été mis à disposition des familles.
Gratuitement.
Alors là, il y a des subventions qui devraient arriver. Maintenant, on verra quand ça arrivera, mais pour l'instant, c'est gratuitement. Ouais.
Vous faites venir les populations que du Sud, non, si j'ose dire, ou tout le monde du Nord aussi, de Naharia, Kiryat-Shmona?
Du Sud, du Nord, principalement toutes les localités...
Sderot.
Sderot, toutes les localités qui ont été évacuées. Après, il y a beaucoup de familles qui viennent parce qu'ils n'ont pas de bunker de mamad chez eux et qui veulent aussi venir. Maintenant, c'est difficile de filtrer... qui oui, qui non, mais on essaye de donner la priorité aux familles du Sud et aux familles du Nord. Oui.
Et avec les enfants, ça fait un total de combien de personnes?
Chez nous, en ce moment, c'est 600 personnes.
Vous avez 600 personnes
chez nous? Juste chez nous. Après, en général, je crois que c'est...
Ah oui, bien sûr, on est à 125 000 déplacés.
Non, il y en a beaucoup.
Bien sûr, nous, dans notre hôtel, il y a des gens de Sderot qui sont dans les...
Ah, oui.
Mais vous, oui.
Non,
mais vous, 600, vous, voilà, vous avez votre business, vous avez dit, moi, je donne...
Alors pour l'instant, il n'y a plus de business. Pour l'instant, il y a juste du social. Ouais. Il n'y a plus beaucoup de business.
Il n'y a plus de business. D'ailleurs, je vous vois en uniforme. Vous avez été mobilisé?
Oui. Le 7 octobre au matin, je suis parti avec mes amis.
Sans donner des secrets, vous êtes où? Vous êtes du quel côté? Du côté de Gaza? Juste, vous dites du côté de où?
Du côté de la Judée-Samarie.
Ah ouais?
Mm-hmm.
Ah, d'accord. C'est chaud? C'est dur?
Il y a du boulot.
Partout, c'est dur.
Ouais, ouais.
Partout, c'est dur.
Il y a du travail partout.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Quelque chose que vous avez envie de dire?
Oui, merci. Merci pour toute la communauté. Merci pour le soutien de tout le monde. Ça fait chaud au cœur. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Et puis, il n'y a aucun doute qu'on va y arriver, qu'on va se faire 50 ans ou 100 ans de calme, si Dieu veut, dans la région. Et on va terminer avec ça. Et puis, on va vivre tranquille ici.
Le t-shirt, c'est Douf Devan?
Oui.
Darba.
Je vais vous poser.
Nous sommes à présent avec Amine El Khatamine, qui est un essayiste, qu'on a beaucoup vu sur les plateaux lorsqu'il présidait une grande association qui s'appelle le Printemps Républicain. Et voilà, on est à Tel Aviv. Alors, étonnamment, je sais pas, moi j'ai vu énormément d'agents de sécurité s'inquiéter plus pour moi, responsable d'une radio juive en France, tout simplement juive de France, que pour eux ici. Ça vous étonne, vous ?
Non, ça ne m'étonne pas. Et moi aussi, on m'a dit, alors je ne suis pas juif, mais on m'a dit bon courage. Comment vous dire ? On a un pays de 10 millions de personnes qui fait bloc. Et si on touche à l'un des leurs, tous les autres y vont. Et ils ont le sentiment qu'en France, il y a 500 000 juifs qui sont face à des millions de haineux et qui ne sont pas soutenus. C'est ça la vérité. Et ils n'ont pas peur ici, même si on a des terroristes islamistes du Hamas ont commis un pogrom. Mais ils n'ont pas peur, d'abord parce que c'est un grand peuple, et parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils se soutiennent, et parce qu'ils ont un État qui est à côté d'eux. Et surtout, plus que l'État, qui devra d'ailleurs répondre de défaillances majeures, parce que ce qui s'est passé va appeler des explications, une société civile qui est incroyable. On a visité tout à l'heure ce grand hall qui a accueilli l'Eurovision il y a 2 ans, et vous avez des bénévoles qui trient des habits pour bébés, des poussettes, des biberons, des casseroles, des colis par milliers qui arrivent. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est que je m'attendais à trouver un pays à terre, des gens déprimés, des gens... Et on a face à nous des gens qui vous disent « on va se battre et on va gagner ». C'est même pas « on pense qu'on va gagner, il est possible que l'on gagne ». Les gens vous disent « on va gagner ». Et donc effectivement, ils sont inquiets pour les juifs, nos compatriotes français de confession juive, parce qu'ils ont... D'abord, ils sont en grande minorité, face à quelques millions d'antisémites que l'on connaît, et face à un État qui, pour l'instant, hélas, je le regrette, ne parvient pas à protéger nos compatriotes de confession juive. Et quand on voit dans le métro des gens qui hurlent « mort aux juifs », quand on voit des croix gammées qui sont taguées, quand on voit que des logements, des bâtiments où habitent nos compatriotes de confession juive sont indiqués sont comme si on était revenu dans les années 30, je comprends que nos amis ici soient inquiets.
Ils nous disent aussi autre chose. Ils nous disent, ce qui se passe ici, il faut qu'on gagne. Parce que si on ne gagne pas, vous allez inévitablement le retrouver chez vous. Est-ce que ça, c'est un argument qui vous a convaincu ?
Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Israël est à la pointe de l'Occident. Israël est à la pointe de l'Occident. C'est la seule démocratie de la région. C'est le seul pays où le droit des LGBT sont défendus et protégés. Quand je vois des gens manifester en disant « queer for Palestine », alors qu'ils seraient les premiers à se faire jeter des toits d'immeubles par le Hamas et le djihad islamique, c'est le seul pays où les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et donc, Israël, c'est la pointe de l'Occident. Donc évidemment, si on n'est pas solidaire avec Israël, si on ne soutient pas ce grand pays, si on ne participe pas d'une manière ou d'une autre à cet élan qui est en train de se lever, effectivement, si Israël perd, si Israël échoue, ce qui est arrivé ici arrivera ailleurs et arrivera chez nous. Regardez les 300 000 islamistes qui ont manifesté à Londres. Vous croyez pas qu'un jour ces gens-là seraient capables de prendre des armes et de déferler sur des synagogues, sur des lieux culturels juifs, dans des quartiers juifs? Aujourd'hui, ils manifestent et dans 10 ou 15 ans, peut-être qu'ils passeront à autre chose. Donc oui, nous n'avons pas le choix que de soutenir Israël dans la guerre qui lui est menée.
Est-ce que vous diriez que quelque part, c'est déjà dans la globalisation, dans la mondialisation, cette bataille, elle est déjà engagée? Est-ce que, alors, évidemment, on n'est pas là à dire on va sortir des armes, on n'est pas dans un pays... On n'est pas là. Mais est-ce que vous diriez, non, mais cette bagarre, Bernard, elle est déjà engagée?
C'est une guerre de civilisation. Voilà. Ce sont deux mondes qui s'affrontent avec leurs valeurs, avec leur conception de la société, avec leur modèle. Voilà. C'est un choc de civilisation entre des nations libres qui partagent des mêmes idéaux et un obscurantisme qui a pour point commun un islamisme politique, rigoriste, terroriste. Et donc, nous avons ce choc. Voilà, c'est aussi simple.
Dans ce choc, par exemple, quand vous entendez des gens qui disent « Non, mais finalement, allez, les bombardements ou des gens qui sont entrés dans les maisons, dans les kibboutzim, c'est la même chose. Ça, d'abord, un, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Deux, mais j'ai une idée, je pense bien ce que vous en pensez. Par contre, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez l'impression que cette guerre des civilisations traverse la France? C'est pas seulement d'État à État.
Alors, d'abord, moi, je suis triste quand des innocents sont tués. Voilà, je ressens la même affliction, la même peine pour le petit Ariel qui a été tué dans un kibboutz et pour la petite Selma ou la petite Fatima qui est un bébé à Gaza et qui n'est responsable en rien de ce qui lui arrive et qui meurt. Bon. Donc face à la mort d'innocents, on ressent la même humanité. Après, je suis d'accord, un civil qui est tué innocent, arraché de son lit au petit matin par un groupe terroriste qui vient canarder. On a vu cette maison, je m'en souviendrai toute ma vie, à Sderot, cette maison criblée de balles. Ce n'est pas la même chose qu'une victime collatérale d'une guerre. Voilà, je ne dis pas que je ne ressens pas de la tristesse pour les deux, mais il y a d'un côté un acte de terreur et de l'autre, les conséquences d'une guerre.
Riposte, vous appelez ça une riposte?
Oui, mais la guerre, dans ce cas-là, de plus horrible. Enfin, moi, il n'y a pas. La guerre, c'est toujours atroce. C'est toujours atroce. Moi, qu'un salopard du Hamas soit découpé en deux par un missile, ça ne me provoque aucune émotion. Mais que des innocents soient tués, oui, ça me fait de la peine. Mais ce n'est pas la même chose de déferler à 2500 terroristes avec des kalachnikovs en tirant sur des gens qui sont en train de dormir et d'être victime collatérale d'une guerre qui est menée par une armée légitime et qui, en plus, l'armée israélienne, elle a pris la peine de prévenir les habitants pour leur demander de quitter les zones. Je n'ai pas souvenir que le Hamas ait prévenu nos malheureux amis de la Rêve Partie de partir avant leur arrivée. Hein, ils n'ont pas eu le temps de partir, eux. On les a tués comme ça. Et ceux qui dormaient,
On les a poursuivis.
Et ceux qui dormaient n'ont pas reçu d'alerte du Hamas la veille pour leur dire « Partez, nous arrivons ». Ils sont arrivés et les ont surpris dans leur sommeil. Donc non, ce n'est pas la même chose. Et moi, j'assume, quant à la suite... Je ne sais pas s'il y a une guerre de civilisation en France, je n'irai pas jusque-là, mais on voit bien qu'on a un conflit avec une partie de la population, qui est, pas tous les musulmans, évidemment, mais une partie de la communauté musulmane qui est traversée par de l'islamisme, du rigorisme, la radicalisation. Et donc, si on ne traite pas le sujet clairement, on ira vers des jours difficiles.
Amine et Katmine,
merci à vous.
Merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. Voilà, Amine El-Khatmi, qui est le président, l'ancien président du Printemps républicain. Il est aujourd'hui remplacé à la tête, à la direction de ce grand mouvement par une journaliste de Charlie Hebdo. Nous clouons, c'est le moment de clore notre émission en direct de Tel Aviv avec la délégation du KKL. Voilà, un moment fort. Un moment de solidarité, un moment de réflexion aussi, un moment quelque part au milieu de ce désastre, un moment d'espoir avec des gens qui ont envie de se battre, de construire et de ne pas laisser l'obscurantisme leur dicter leur mode de conduite. Voilà, Pierre Gandus, je vous cède le micro à Paris pour le journal de 19h et excellente soirée à tous ici. En direct de Tel Aviv.